Nous sommes avec Jean-Claude Bernheim, criminologue et professeur. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous entend souvent sur les questions des prisons et des questions de la criminalité en général. Si vous aviez à vous présenter en quelques mots vos activités et le pourquoi vous êtes si souvent sollicité sur ce sujet-là.
Je pense qu'on me sollicite si souvent parce que ça fait très longtemps, une trentaine d'années que je m'intéresse à la question des prisons, de la situation des détenus et que j'ai fait un certain nombre d'analyses qui semblent avoir été considérées comme pas trop mauvaises. Et par conséquent, je pense que je suis à même de donner un certain point de vue qui n'est pas nécessairement celui partagé par les personnes qui sont en situation de pouvoir.
Donc justement, c'est notamment pour parler de ce point de vue alternatif-là qu'on voulait parler avec vous aujourd'hui sur la question de la criminalisation en général, avec une certaine optique aujourd'hui sur la notion de criminalisation de la pauvreté. Donc le fait que des gens pour que le type de crime en fait qui se retrouve à être puni, notamment si on fait une légère recherche, par exemple si on prend les chiffres de la société Elisabeth Frey qui s'occupe notamment de la question des femmes détenues, 4 femmes sur 5 en prison ont été incarcérées pour des crimes qui sont liés à la pauvreté et le plus souvent des crimes qui n'ont aucun rapport avec quelque chose qui constituerait un danger pour la société en termes de les crimes violents auxquels on pense. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on emprisonne les gens?
Mais d'abord, c'est parce qu'on veut mieux contrôler les gens sans pouvoir. Parce qu'il s'agit de voir comment sont définis ou comment est définie la notion de crime. Alors, on peut voir que on définit ce qui est un crime en fonction de la situation de pouvoir des gens. Pour donner un exemple, je dirais assez éclatant, le vol. Tout le monde spontanément va penser que de commettre un vol, c'est un crime. Mais quand on regarde sur le plan pratique comment les choses fonctionnent au Canada, eh bien, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, que certains vols ne sont pas des crimes. Alors, l'exemple, c'est que si vous allez dans un magasin, vous volez, je sais pas moi, un steak, eh bien, que vous faites prendre, puis que vous êtes condamné, bien, vous êtes considéré comme un criminel, vous avez un casier judiciaire. Si vous allez dans le même magasin et que vous achetez le steak en question, qu'on vous a dit être un steak de première qualité qui normalement se vend à, mettons, 20 $ le kilo, mais que là, on vous fait un bon prix à 10 $ le kilo, mais que dans les faits, c'est faux. C'est pas un steak de première qualité. Alors là, on est dans un contexte qu'on appelle de la publicité trompeuse. Et si, par hasard, le magasin est condamné pour publicité trompeuse, eh bien, personne n'a commis de crime parce que c'est une corporation. Donc, celui qui a rédigé l'annonce, lui, n'est pas considéré dans l'affaire comme tel. Et puis, évidemment, celui qui fait les profits n'est pas aussi considéré dans l'affaire. C'est juste la corporation. Et comme on ne peut pas mettre un magasin en prison, donc personne ne va en prison et il n'y a pas de crime de commis. Alors, on voit que l'essentiel des comportements des gens sont comme ça, gérés selon le pouvoir qu'on peut détenir. Un autre exemple, la fraude. Alors, on sait pertinemment qu'il y a une quantité de commerce qui ne remettent pas la perception des taxes au gouvernement. Alors là, il y a éventuellement des poursuites qui sont entreprises. Et la corporation encore va être éventuellement condamnée. Éventuellement, certaines personnes aussi sont condamnées, mais elles sont condamnées à des amendes et ce n'est pas en fonction du code criminel qu'elles sont poursuivies, mais en fonction de la loi sur les impôts ou les taxes. Mais qui peut se permettre de ne pas payer la perception des taxes encore? Ce sont des gens qui sont en situation de pouvoir économique. Et puis, un autre exemple, par rapport à l'homicide. Un homicide, c'est quelqu'un qui tue une autre personne. Mais on a toujours en image des situations assez spectaculaires. Mais si on reprend, par exemple, l'exemple de l'itinérant qui fouillait avec son couteau dans un sac de poubelle ou un sac vert, qui a été tué, eh bien, dans ce cas-là, on ne parle pas d'homicide. Hein? On parle d'un incident, d'un événement, on parle de toutes sortes de choses, mais jamais d'homicide. Et encore moins de meurtre. Et ces événements-là, ces incidents-là, ne donnent, pour ainsi dire, jamais lieu à des poursuites. Parce qu'on est encore là, dans un contexte de pouvoir. Donc, pour revenir à la question de départ, comment ça se fait qu'on retrouve 80% des femmes en prison pour des raisons d'ordre économique? Eh bien, parce que les femmes sont discriminées sur le plan économique et social. Et ça se répercute en partie par un certain nombre de comportements qu'elles peuvent avoir pour essayer de s'en sortir plus ou moins d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'elles sont dans un contexte qui fait que leur capacité à accéder aux ressources de la société sont pas faciles, elles rencontrent beaucoup d'obstacles. Et quand on considère que ce qu'elles font n'est pas correct, eh bien, on les poursuit. Et puis, on les condamne.
Alors, c'est la situation des femmes, mais comme vous le disiez, ça peut être la situation de beaucoup d'autres groupes sociaux là, qui se trouvent à ne pas être au pouvoir. Concrètement, dans les prisons canadiennes en ce moment, est-ce que vous pouvez nous donner une vision à peu près de qui sont ces détenus, pour quel type de crime les gens sont en prison, puisque si on en croit les nouvelles, on pourrait croire qu'il y a juste des psychopathes dangereux qui se retrouvent en prison?
Bon, il y a deux types d'institutions au Canada. Il y a les prisons provinciales et il y a les pénitenciers fédéraux. Et la distinction se situe au niveau de la longueur de la peine. Les personnes condamnées à des peines de moins de 2 ans se retrouvent dans une prison provinciale. Les personnes condamnées à des peines de 2 ans et plus se retrouvent dans les pénitenciers fédéraux. Dans les prisons provinciales, la moyenne des peines prononcées sont à 80% inférieures à 3 mois. Donc, on peut penser que les délits qui mènent en prison pour des périodes de moins de 3 mois sont des délits relativement mineurs. Dans les pénitenciers, évidemment, se retrouvent là les gens qui ont commis des infractions contre les personnes graves. Et là, les peines peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Maintenant, on voit qu'il y a, dans les pénitenciers, ça varie selon les régions du Canada. Mais disons que ça tourne autour de 30-35% des personnes qui se trouvent dans les pénitenciers pour des infractions contre la personne. Il y en a une bonne proportion qui sont là pour des infractions contre par rapport aux drogues, et les autres, c'est par rapport aux biens.
Puis parmi les idées reçues ou véhiculées par rapport aux prisons, beaucoup de gens vont tenter de, ou en tout cas de justifier ou de s'imaginer que c'est fait pour venir en aide aux gens ou diminuer la criminalité. Qu'en est-il selon vous?
Bien, si on regarde la réalité, il y a toute cette question, oui, de la notion de réhabilitation. Alors, on peut voir que les programmes dits de réhabilitation, effectivement, il en existe un certain nombre. Par exemple, ça peut être par le biais de cours ou bien une formation académique ou l'apprentissage de certains métiers. Mais le problème de fond, c'est que c'est difficile d'accès parce que le nombre de possibilités pour les détenus sont limitées. Ensuite, les détenus peuvent être transférés d'une institution à l'autre. Donc, s'ils sont déjà engagés dans un programme quelconque, eh bien, il y a une interruption et il n'y a pas nécessairement de poursuite dans la nouvelle institution où les gens se trouvent. Et puis, tout ça est finalement clôturé par le fait que les gens ont un casier judiciaire. Donc, vous pouvez être en prison, même réussir des cours de cégep, mais le problème, lorsque vous allez être libéré, vous allez chercher un emploi, eh bien, les emplois ne seront pas accessibles parce que vous avez un casier judiciaire. Par exemple, vous ne pouvez pas être fonctionnaire ni au niveau fédéral, provincial, municipal, si vous avez un casier judiciaire. Vous pouvez pas faire de taxi, vous ne pouvez pas travailler avec des gens vulnérables, vous ne pouvez pas être dans un tas de domaines. Et en plus, maintenant, les compagnies américaines qui sous-traitent avec des compagnies canadiennes exigent de manière assez régulière que les employés n'aient pas de casier judiciaire. On ne sait pas trop pour quelle raison, parce que, par exemple, il y a une compagnie qui fabrique des 2x4 et puis du plywood et qui est exportée aux États-Unis, mais le propriétaire de la compagnie n'a pas le droit d'engager quelqu'un qui a un casier judiciaire. Et pour avoir un casier judiciaire, il ne faut pas nécessairement aller en prison. Hein. Il suffit d'être trouvé coupable d'une infraction au code criminel ou d'une loi fédérale. Alors, au Canada, au moment où on se parle, il y a environ 4 100 000 personnes adultes qui ont un casier judiciaire. Dans les faits, ça représente un homme sur 5 et une femme sur 20. Alors, on est dans un contexte où toute cette notion de réhabilitation est un peu de la fumisterie, puisque le fait d'avoir un casier judiciaire, ne veut pas dire d'abord que vous n'êtes pas inséré, parce qu'il y a quantité de personnes qui ont un casier judiciaire parce qu'ils ont été condamnés pour avoir été en possession de marijuana, d'avoir commis un vol à l'étalage une fois dans leur jeunesse, pour toutes sortes de délits mineurs qui ne mettaient personne en danger, mais qui fait que leur peine est à vie.
Donc, ça fait partie des mythes qu'on voit souvent répandus. D'après vous, quels sont les autres mythes, les autres croyances que les gens ont sur les prisons? Puisque c'est un sujet que, somme toute, les gens parlent assez peu, à part pour se rassurer que tel criminel ou tel autre est enfin en prison, ou c'est la seule fois où on en parle. Pour vous, quels sont les mythes à déconstruire?
Ben, entre autres, le fait que les prisons sont des hôtels 4 étoiles. Ou bien les gens ont vraiment été dans un hôtel 4 étoiles, ou bien ils ont vraiment été en prison, mais c'est clair que quelque prison que ce soit au Canada n'est pas un hôtel 4 étoiles. C'est vrai qu'il y a certains pénitenciers en particulier qui sont de construction relativement récente, donc qui présentent une architecture, disons, assez ouverte, je dirais peut-être même agréable à la vue, mais être en prison... C'est pas juste être dans un endroit donné, c'est tout le contexte dans lequel on se trouve. Vous pourriez, par exemple, vous retrouver, au Ritz-Carlton, à Montréal, dans la plus belle des suites, mais seulement vous y êtes là pour 20 ans et vous pouvez jamais en sortir. Je sais pas comment, au bout de 5 ans, vous pouvez trouver votre belle suite, mais je présume qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver à penser que c'est peut-être pas le meilleur endroit où vous voulez vous retrouver. Alors, la prison, nonobstant les conditions matérielles qui peuvent être à l'occasion pas trop mauvaises, mais souvent pas très bonnes, c'est le fait d'être privé de la liberté et de ne pas pouvoir prendre de décisions par rapport à sa propre personne. Et ce qui est d'assez étonnant, c'est qu'on met des gens dans des institutions dans lesquelles il leur est interdit de prendre des décisions par rapport à la vie quotidienne pendant des périodes éventuellement très longues. Puis après, on ouvre la porte puis on leur dit, vous allez dans la société puis vous devez fonctionner normalement. Mais on sait que ça peut pas fonctionner comme ça. Un exemple, c'est que les gens de l'armée canadienne qui ne sont pas allés en Afghanistan, puis qui ne sont pas allés sur quelque terrain que ce soit, qui quittent l'armée après 5 ans, 10 ans, pour une raison X, Y, Z, on leur donne une période de décompression. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent se réadapter à la vie civile. Or, l'armée canadienne n'était pas, à tout le moins jusqu'à récemment, vu comme une armée de combat. La vie dans les forces armées canadiennes n'était pas un contexte de comment je pourrais dire, difficiles, où il y avait de la répression à effectuer, à se défendre, etc. Mais quand même, on admettait, on convient que le fait simplement d'avoir vécu dans ce contexte-là demandait une période d'adaptation pour se réadapter à la vie normale. Alors, il s'agit de penser maintenant comment peut sortir une personne de prison après 5 ans dans un milieu dans lequel elle a été sous le contrôle absolu de l'administration correctionnelle et qui n'avait aucune façon de pouvoir vivre en fonction de ses besoins, de ses intérêts, etc.
Je voulais profiter sur le sujet des conditions de détention. Il y a, dans les rares fois où est-ce qu'on voit quelques scandales apparaître, une des histoires qui a le plus marqué dans les dernières années, c'était l'histoire de Ashley Smith, qui était une jeune femme là, qui est décédée en prison. Est-ce que quels sont les autres cas dont on parle moins souvent et le taux de brutalité qui se vit également en situation d'incarcération?
Ben, il y a eu une grosse enquête par rapport à la prison des femmes à Kingston dans les années 90, où là, l'ex-juge à la Cour suprême, Louise Arbour, avait conclu que la façon dont fonctionnait le système correctionnel, puis il fonctionne encore comme ça, c'est en dehors du cadre légal canadien, en dehors des principes de droit du Canada, et que ce qui s'était produit là, c'est-à-dire que les femmes avaient été brutalisées en étant mises à nu par une équipe d'hommes, entre autres, eh bien, ça avait été considéré comme de la torture. Elle avait conclu que les traitements subis par ces femmes-là étaient des traitements cruels, inhumains et dégradants, ce qui est la définition onusienne de la torture. Il y a des cas comme Mme Ashley Smith aussi, il y en a eu d'autres. Par exemple, il y a un homme, M. Guimond, qui était décédé et qui a fait une crise d'épilepsie au pénitencier de Port-Cartier. On a filmé finalement, son agonie, parce qu'on n'a rien fait. L'affaire Smith démontre très clairement comment les gens qui travaillent dans ce système-là se trouvent à être captifs d'un mode de gestion des autres, des corps, finalement, qui est tout à fait similaire à ce qu'on peut retrouver dans les camps de concentration. Je veux dire, on a là des autorités qui ont demandé aux gardiens de ne rien faire, de ne pas intervenir lorsqu'elles tentaient de se suicider. Et tout le monde regardait les images sur écran. Alors, l'administration demande au personnel de ne pas intervenir lorsqu'une personne met sa vie en danger. Et les gens qui travaillent là acceptent ces ordres-là. Et c'était la même chose dans l'affaire Guimond, où pendant sa crise, l'infirmier n'a rien fait. Le personnel l'a transporté dans la cellule d'isolement de l'infirmerie et a attendu que des choses se passent. Et c'est à la demande d'un gardien, finalement, que l'ambulance a été appelée, mais quand elle est arrivée, il était trop tard. Alors, on peut voir jusqu'à quel point les gens qui travaillent dans ces pénitenciers-là se trouvent à être déshumanisés. Parce que les gens qui sont devant eux, ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Parce qu'il n'y a personne qui peut considérer quelqu'un comme un être humain et le regarder mourir sans faire ce qu'elle peut faire, même si elle ne peut pas éventuellement la sauver. Au moins, intervenir, essayer. Mais non, là, les gens sont passifs. Et ils attendent que la mort arrive et que les gens décèdent. C'est une réalité dans les pénitenciers canadiens.
Ça revient à la notion de crime sur laquelle vous aviez commencé, puisqu'à ce moment-là, ce genre d'acte qui, en dehors d'un rapport de pouvoir gardien-détenu, serait considéré comme un crime, comme non-assistance à personne en danger, justement, là-dessus. Est-ce qu'il y a, quelles sont l'existence des recours? Est-ce qu'on observe la même chose dans le cadre des gardiens de prison que dans le cadre de la police, c'est-à-dire qu'il y a très peu de plaintes possibles et il y a à peu près aucune condamnation dans ces situations-là?
Tout à fait, tout à fait. Même que dans l'affaire de Kingston, par exemple, eh bien, la perspective des autorités correctionnelles était de féliciter le personnel qui était intervenu au pénitencier. Ce qui a arrêté le gouvernement du Canada de féliciter ses employés puis de les décorer, c'est les rapports qui ont été rendus publics avant que ce soit fait. Mais c'était ça l'objectif. Et une fois que les rapports ont été rendus publics, eh bien, ce qu'a dit le ministre, c'est on va tourner la page. Donc, personne n'a été sanctionné pour ça. Même que, comme il y a eu plusieurs rapports de produits dans le cas de Kingston, et que, en ce qui concerne le premier rapport, qui était le rapport du Service correctionnel du Canada, les personnes qui ont fait ce premier rapport, eh bien, ont conclu que tout s'était passé selon les règles, selon les normes. Et ces gens-là qui ont produit ce rapport-là ont eu des promotions. Alors, non seulement le système couvrait ces agents pour les abus commis, mais récompensait ceux qui disaient que tout avait bien été. Et même... Le scandale était à ce point que lorsque le rapport de Louise Arbour est sorti, eh bien, le commissaire des pénitenciers s'est vu obligé de démissionner. Mais, je veux dire, il a simplement été transféré dans un autre secteur de la fonction publique. Il n'y a eu aucune sanction de prononcer contre lui, malgré le fait qu'il ait menti aux détenus, qu'il ait menti à tout le monde. Qu'il n'ait pas assumé ses responsabilités. C'est le fonctionnement d'une institution carcérale. Ce que je décris par rapport au Canada maintenant, ça se passe aux États-Unis de la même façon, puis en Europe et puis partout dans le monde. Les prisons sont d'abord et avant tout des institutions au service du pouvoir. On y met les prisonniers dits de droit commun quand les choses fonctionnent, entre guillemets, normalement. Et lorsqu'il y a un problème politique, on vide les prisons des prisonniers de droit commun et on y met des prisonniers politiques. Alors, la prison, quand on regarde qui s'y trouve et pourquoi il s'y trouve, c'est-à-dire quelle est la définition de crime et qui on sanctionne, et qu'on regarde l'usage de l'institution en fonction de l'histoire d'un pays ou d'une époque, on voit très bien que ce ne sont pas là des institutions au service de la société, mais plutôt au service du pouvoir.
Toute une bonne synthèse. Jean-Claude, on vous invite souvent dans des médias de masse là, sur des cas de personnes en situation de détention. Quel est le message qu'on ne vous laisse pas assez souvent dire ou parfois qu'on ne vous laisse pas du tout dire qui serait important de profiter pour dire pour des médias communautaires?
On m'empêche pas de dire, de faire part de mon analyse. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je peux pas dire qu'on ne me donne pas la chance de le faire quand les événements y sont propices. Ce qui manque, à mon avis, c'est un débat public. Ce que tous les gouvernements se refusent à faire. Il y a des débats publics sur toutes sortes de questions d'ordre social. Il y en a eu sur le mariage, sur l'éducation, sur les soins de santé, sur l'euthanasie. Bon, il y a des débats publics sur les grandes questions sociales de manière assez régulière. Et finalement, il y a des prises de position. Puis il y a des orientations qui sont prises par la société. En matière de justice, Il n'y a jamais de débat. On discute de certains points, on discute de certains cas, de certains problèmes, mais toujours dans une perspective la plus étroite possible. On ne regarde jamais l'ensemble du système. Comment ça démarre, jusqu'où ça va, et comment ça fonctionne, et pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne. De temps en temps, ça a été fait par rapport à la police. Il y a des enquêtes par rapport à la police qui donnent lieu à des réformes, en général pas très, très, très approfondies, mais il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont faites. Mais en ce qui concerne les pénitenciers, lorsqu'il y a des enquêtes, il y a toujours des stratégies politiques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat public. Par exemple, quand il y a eu, il y a une trentaine d'années maintenant, au pénitencier Archambault, une tentative d'évasion, des gardiens qui ont été tués et des détenus qui sont suicidés et de la torture qui s'est produite après, là, il y a eu des enquêtes internationales. Ça a été un gros scandale. Et il y a eu un rapport canadien qui a été produit par l'enquêteur correctionnel, mais ce que le gouvernement à l'époque a trouvé comme façon pour noyer le contenu de ce rapport qui mettait en cause le fonctionnement du système, c'est de rendre public le rapport le même jour où on déclenchait des élections fédérales. Alors évidemment, ce rapport-là, on en a parlé, mais beaucoup moins puisqu'on devait faire maintenant face à une élection, donc à un événement public important et de grande ampleur. La même chose pour le rapport relatif aux pénitenciers des femmes à Kingston. Eh bien, on a rendu le rapport public en dehors de la session parlementaire. Donc, il y a toutes sortes de stratégies politiques qui sont prises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat public. Tous les gouvernements, à quelque niveau que ce soit, se refusent à un débat public parce qu'effectivement, s'il y avait un débat public approfondi, on verrait et on pourrait mettre en évidence que les gouvernements se servent du phénomène du crime, parce qu'effectivement, c'est une réalité, à des fins d'abord et avant tout politiques. Je veux dire, on en a l'exemple avec le gouvernement Harper, qui, depuis qu'il est élu en 2006, crie dans le monde entier que le Canada est un pays très, très dangereux. Hein? Le nom du projet de loi C-10, c'est la sécurité dans les rues. Pourtant, il y a un rapport qui a été rendu public récemment à l'effet que 91% des Canadiens se sentaient en sécurité dans leur quartier. Alors, si les gens se sentent en sécurité, c'est que pour eux, le phénomène du crime n'est pas la première préoccupation. En tout cas, ils se sentent pas vulnérables par rapport au phénomène du crime. Mais on ne dit pas ça. Ce qu'on dit à partir de cas spectaculaires, que la seule façon de faire, c'est d'augmenter la répression. Et on agite le drapeau de manière systématique, récurrente, pour dire aux gens, faites attention. Et en même temps, on prend des mesures, comme le projet de loi C-10, qui va se conclure par une augmentation importante de la population carcérale. Et comme le revendique le gouvernement du Canada, le gouvernement Harper, revendique que les provinces prennent de l'argent au niveau des soins de santé, au niveau de l'éducation, pour construire des prisons. Alors, il y a là un usage politique très, très déterminé du phénomène du crime. Et c'est évident que s'il y avait un débat public sur les faits, ce ne serait pas possible pour le gouvernement Harper de prendre des positions comme il le fait.